Il me semble qu'il y a quand même comme un non-rapport de principe pour commencer entre psychanalyse et littérature, malgré le très grand livre de Shoshana Feldman sur ce sujet. Je pense que cette question-là ne va pas du tout de soi. Et d'abord, si on s'intéresse ne serait-ce qu'à l'articulation, qu'à l'injointement entre la psychanalyse et la littérature, parce qu'après tout, la psychanalyse repose, et y compris d'ailleurs la psychanalyse dans sa définition freudienne, sur ce qu'on pourrait appeler l'existence d'une demande, et il me semble que la littérature ne demande absolument rien, ni à la psychanalyse, ni à quiconque d'autre, et que de ce point de vue-là, demander d'une certaine manière à la psychanalyse de répondre de la littérature, ça procède, y compris pour la psychanalyse, d'une espèce de contresens très violent. Mais bien entendu, ça ne s'applique pas qu'au seul cas Roland Barthes. Et pour le cas Barthes, si j'ose dire, enfin pour ce qui concerne Roland Barthes, le problème me semble se poser d'emblée de devoir, disons, situer Roland Barthes par rapport à la psychanalyse, ce qui est, me semble-t-il, une tâche très très difficile, ou en tout cas situer la psychanalyse dans le discours critique de Barthes, c'est-à-dire identifier les instances, et j'en ai identifié certaines dont je veux parler de manière ponctuelle, si j'ose dire, mais je ne sais pas si je sais produire une théorie, et je pense qu'en plus cette théorie, d'une certaine manière, sans doute n'a pas lieu d'être. Ni pour Barthes, ni par égard, disons, pour le discours de la clinique qui ne s'occupe encore une fois ni du texte de la critique, ni du texte de la littérature. Donc il faudra s'entendre quand même un peu, et peut-être dans les questions, dans les échanges, ensuite on pourra revenir à cette question de la définition et de la position entre Barthes et psychanalyse, parce que là il y a deux incommensurables. Alors j'ai beaucoup réfléchi à partir de l'excellent article d'Éric Marty sur la question de l'interprétation entre Barthes et la psychanalyse, en tout cas la question herméneutique, disons, entre Barthes et la psychanalyse, et c'est avec ce questionnement que je chemine aussi, parce que de fait le point de contact entre, disons, la position critique qui est celle de Barthes et le discours de la psychanalyse, c'est bien évidemment la question de l'interprétation, qui est centrale au discours freudien, qui est au fond du discours freudien, ou le fondement du discours freudien dans la découverte de l'inconscient, dans l'interprétation du rêve. Voilà, mais de toutes les manières, et je veux le dire encore une fois, au-delà de, et sans fausse modestie, ce que j'avance là n'a aucune prétention d'exhaustivité, ni même d'une certaine manière de certitude. Alors, je voudrais essayer de, malgré tout, d'essayer de délimiter, de circonscrire un peu le domaine de ce sujet, parce que après ce premier moment où je me disais, mais en fait, ce qui constitue le rapport de Barthes à la psychanalyse, c'est précisément le non-rapport. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je me disais que Barthes fraye quand même avec le discours de la psychanalyse à certains moments, dans certaines phases, que vous saurez bien mieux identifier que moi, mais sans que, me semble-t-il, ce frayage, disons, soit nécessairement rendu très visible ou nécessairement souligné. Il me semble qu'il y a des instances où Barthes, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, notamment en relisant peut-être le plaisir du texte, mais surtout en relisant les fragments d'un discours amoureux. Parfois, Barthes met dans les marges, mentionne le nom d'un auteur, de Freud, de Winnicott, de Lacan, de Reich. Et finalement, il me semble que ce sont des instances où il fait moins usage du discours analytique qu'en d'autres instances où, finalement, il ne mentionne pas le nom d'un analyste. Donc je pense qu'il y a aussi toute une manière de barthésienne, toute une stratégie, disons, qui consiste à enfouir certaines références, et je pense que j'imagine que c'est une stratégie qui est très délibérée, et par ailleurs à mettre en avant un certain nombre d'autres points saillants, enfin visibles, comme pour exposer le discours de la psychanalyse dans certains endroits, ou pour le cacher ou l'enfouir dans d'autres. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a dans l'œuvre de Barthes de très nombreuses traces, des échos vraiment insistants sans doute, des références à des corpus analytiques très divers d'ailleurs, qui vont bien sûr des écrits de Freud à des articles de Winnicott, au travail de Reich, et bien sûr de très nombreuses mentions du nom et de la pensée de Jacques Lacan, qui est quand même sans doute s'il fallait, disons, dire la vérité de ce sujet qui est le mien aujourd'hui, c'est Roland Barthes et la psychanalyse, mais c'est surtout Roland Barthes et Jacques Lacan. Enfin, en tout cas, Barthes et Lacan, puisque c'est ce qui m'a semblé le plus immédiatement, disons, abordable, et ce qui a l'air de travailler au cœur, disons, des instances, encore une fois, où Barthes se saisit ou fait écho, rend écho, donne écho au discours de la psychanalyse. Tout au long de cette lecture, j'ai été tout de même intéressée par la relation de Barthes à Freud, qui est tout de même sans doute non seulement réelle, mais peut-être structurante. J'y reviendrai, parce qu'il me semble que par rapport à Freud, et ça a déjà été dit par Éric Marty, ça a été dit aussi par Marie-Gilles, j'y reviendrai, la réticence est peut-être encore un peu plus grande. Et j'ai été intéressée du fait que, me semble-t-il, parmi les références les plus intéressantes à l'œuvre freudienne, ou texte freudien, disons, ce sont des lettres de Freud à Martha, qui sont parfois les références que j'ai trouvées les plus, non seulement les plus touchantes, mais aussi parfois les plus opérantes. Voilà, mais peut-être que j'y reviendrai. Et je me suis dit aussi qu'une manière d'aborder cette question, qui encore une fois est une question gigantesque, enfin à la fois vague et gigantesque, c'était de s'intéresser à la manière. Je repensais au mot de Yankelevitch qui disait que tout est dans la manière. Et je me disais que j'allais m'intéresser à la manière, aux modalités, disons, de citation, aux modalités d'approche, disons, barthésienne du discours analytique. À quel moment et selon quel mode Barthes se saisissait ou pas, d'ailleurs, du discours de la psychanalyse et à quelle fin. Mais peut-être avant cela, et simplement au titre d'un rapide rappel historique, et pour recontextualiser, disons, ce rapport de Barthes à la psychanalyse, je rappellerai, et notamment à ce temps de la psychanalyse qui lui est contemporain, c'est-à-dire ce temps dominé tout de même dans les années 60 et jusque la fin des années 70 par la présence et l'enseignement de Lacan, je me disais que je dirais tout de même un mot des rapports historiques de Barthes à Lacan, ou en tout cas de Barthes à la psychanalyse lacanienne. D'abord pour dire, hein, mais encore une fois c'est un rappel très, très, très évident, très prosaïque, que Lacan, comme Lévi-Strauss, sans doute pour Barthes, représente une communauté de pensée qui est la communauté du structuralisme. Donc là, il y a là, une nécessité, me semble-t-il, de structurale pour Barthes. Je reprenais la récente biographie de Tiphaine Swann-Moyau, qui rappelle que le projet de fondation d'une nouvelle science sémiologique s'inscrivait pour Barthes dans une communauté de recherche, donc qu'il plaçait nettement cette science, encore une fois, au sein du structuralisme. Donc, à ce titre, il est évident qu'il y a presque une communauté naturelle, disons, de Barthes et de Lacan, et sans doute au-delà de Lacan, d'un certain nombre de structuralistes français. D'autant que l'inconscient qui est déclaré par Lacan structuré comme un langage, et non pas par un langage, comme Lacan aime insister, fait malgré tout, me semble-t-il, largement écho au travail, disons, de Barthes autour du système de la langue, enfin cette systématicité structurale autour du système linguistique et de l'inconscient comme système, d'une certaine manière, comme système qui ressemblerait au système de la langue, qui aurait un certain nombre d'affinités avec ce système, c'est sans doute ce qui, encore une fois, structure et détermine les rapports entre Barthes et Lacan, et vice-versa. Même si en regardant hier dans le livre, dans la bibliographie d'Elisabeth Rudinesco, aux entrées Barthes, j'ai été étonnée que ces entrées soient toutes de pure leurre, si j'ose dire, alors que la réciproque n'est pas vraie dans le livre de Tiphaine Samoyau. C'est tout de même intéressant puisque, en fait, le nom de Barthes n'est cité dans la biographie de Lacan que dans une ribambelle d'autres noms, d'autres penseurs structuralistes, et jamais, me semble-t-il, le nom de Barthes ou la personne de Barthes ou les rapports entre Barthes et Lacan ne sont identifiés pour tels. C'est tout de même aussi intéressant, même si c'est peut-être simplement le hasard de cette écriture biographique. Alors bien sûr, le frayage de, avec Lacan, disons, de Barthes avec Lacan, est aussi de nature, disons, biographique et pas seulement structurale. Pendant les années, encore une fois, dans lesquelles s'est écrite l'œuvre de Barthes, a régné une certaine, je pourrais dire, dans l'histoire de la psychanalyse française, une certaine hégémonie, pardon, de la pensée lacanienne. Et Barthes, d'ailleurs, a côtoyé à la fois directement et indirectement Lacan. Il n'a pas cessé de croiser Lacan. Et ça, bien sûr, ça n'est pas vrai simplement de Barthes et de Lacan, c'est vrai de, d'autres penseurs de cette période. D'abord, ils se sont croisés, me semble-t-il, à plusieurs reprises par personnes interposées. De nombreux étudiants suivaient et le séminaire de Lacan à l'ENS, ou en parallèle, le séminaire de Lacan et le séminaire de Barthes. Donc il y a eu là un certain nombre d'échanges, disons, par personnes interposées. C'est notamment le cas, bien sûr, de Jean-Claude Milner. Barthes et Lacan ont aussi un certain nombre d'amis en commun. Et là aussi, un certain nombre de transferts, disons, qui sont peut-être pas que des transferts personnels, mais peut-être aussi qui ont eu des incidences, disons, théoriques, ou en tout cas critiques, enfin, produit des effets d'insémination, si j'ose dire, à travers, par exemple, un personnage qui a éminemment compté, je pense, pour Barthes et absolument pour Lacan, qui est Jean Val. Qui est l'éditeur de, François Val, qui est l'éditeur de, qui est l'éditeur de Lacan et sans lequel Lacan n'aurait pas colligé ses écrits. Et Val, de ce point de vue-là, a beaucoup aidé Lacan dans cette relure, comme dit Lacan, qui était par ailleurs pour lui pratiquement impossible. Donc le fait que Val soit aussi l'ami de Barthes, sans doute n'est pas du tout indifférent aux relations, disons, même si elles n'ont pas été très de grande proximité, mais tout de même entre Barthes et Lacan. Et puis, bien sûr, la personne de Julia Kristeva, qui est l'élève, l'ami de Barthes, mais qui suit aussi le séminaire de Lacan et qui conseillera à Lacan, à Roland Barthes, d'aller consulter Lacan à un moment particulier de sa vie. Alors, directement. Lacan et Barthes se sont aussi trouvés côte à côte, notamment à un moment tout à fait historique de leur carrière, en tout cas pour certainement pour Lacan, et d'ailleurs au-delà de Lacan, c'est-à-dire cette fameuse conférence légendaire de Baltimore de 66, où un certain nombre de ces personnages se sont retrouvés dans le fameux colloque organisé par l'université Johns Hopkins, qui s'intitulait « The Language of Criticism and the Sciences of Man », organisé par Richard Maxey et Eugenio Donato, et où Barthes donc intervient sur la rhétorique. Les conférences de Barthes et de Lacan étaient, si j'ai bien noté, les plus attendues, même si c'est celle de Derrida qui en fait fait l'événement. Ça, c'est rapporté dans un certain nombre de biographies. Mais enfin, ils se sont tous rencontrés, et notamment, me semble-t-il, Lacan et Barthes, en tout cas, se sont côtoyés. Et alors, bien sûr, le rapport entre Barthes et Lacan, c'est aussi au moment de sa relation, disons, difficile, voire impossible avec Roland Havas, dans les années 70, la nécessité que Barthes a éprouvée, en tout cas, ou la tentative de Barthes en direction d'une psychanalyse tout à fait personnelle, qui l'amène à consulter Lacan, sur la recommandation d'ailleurs, si j'ai bien compris, de Julia Kristeva et de Val. Le résultat de cette psychanalyse est clair, puisque si j'ai bien compté, alors il y a visiblement des données biographiques qui sont un tout petit peu divergentes. J'ai lu, je crois, sous la plume de Tiphaine Samoyau que Barthes est allé 3 fois consulter Lacan, et j'ai lu sous une autre plume qu'il y est allé 6 fois. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça reste une psychanalyse qui est assez resserrée dans le temps, qui est soit très efficace, soit a complètement tourné court. Je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse qu'il faut retenir. Donc 3 séances, mettons, ou 6 séances de juin à septembre 75, et ce mot rapporté par Kristeva, que j'ai trouvé très drôle, et qui, je pense, dit plus que simplement, au-delà même de ce que ça dit de l'échec analytique, disons, dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, transférentiel et contre-transférentiel, quand Barthes dit « c'est la rencontre, ça a été la rencontre d'un vieux con avec un vieux schnock ». Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose là que j'ai trouvé touchant dans ce que ça disait aussi peut-être de l'impossibilité à entrer dans l'analyse pour Barthes, et peut-être de l'impossibilité pour Lacan d'entendre Barthes aussi. Ça devait pas être exactement rien d'avoir Barthes sur son divan. Et bien sûr, peu de temps avant, il y avait eu ce voyage en Chine avorté, en tout cas où Lacan avait été invité en même temps que Val, Solers, Kristeva, Marcelin Plenet, et auquel il a renoncé peu de temps avant de partir. Bien sûr, entre Barthes et Lacan, il y a aussi un certain nombre de lectures dont les traces sont perceptibles dans l'œuvre. Tiphaine Samoyeau nous dit que Barthes a lu les écrits à leur sortie, donc en 1966, et les deux séminaires publiés à l'époque, c'est-à-dire les écrits techniques, le premier séminaire, et le séminaire 11, les quatre concepts fondamentaux. SZ s'était déjà écrit dans ce rapport indécis à la psychanalyse. Pour le plaisir du texte, Barthes avait aussi lu, bien entendu, ce livre très important de Serge Leclerc qui est « Démasquer le réel » et un certain nombre d'écrits de Freud, bien sûr, et bien sûr, dans les fragments d'un discours amoureux, la présence de la psychanalyse est tout à fait perceptible. Je me disais que donc pour tenter cette impossible traversée ou en tout cas description des rapports entre la psychanalyse et l'œuvre de Barthes, que je considérerais ces deux textes, le plaisir du texte et les fragments d'un discours amoureux, pour regarder comment, disons, le discours analytique ou la théorie analytique, le discours de la clinique, sont abordés, cités. Voilà, j'opérerais de la seule manière que je sache vraiment faire, c'est-à-dire un peu de manière presque, je ne sais pas comment dire, avec les outils de la rhétorique ou de la poétique, pour voir quelles sont les modalités, disons, même citationnelles, et de quelle manière c'est fait. Donc, au titre d'un pur excursus, enfin, qui, encore une fois, n'a aucune valeur d'exhaustivité. Ce qui m'a frappée en reprenant notamment le plaisir du texte, c'est l'omniprésence, j'avais oublié, de la conceptualité analytique, disons, pour l'appeler comme ça. Dès les premières pages, il y a la mise en place, alors à la manière de Barthes, c'est-à-dire d'une manière à la fois légère et extrêmement souterraine, mais enfin tout de même d'une conceptualité qui est celle, alors je vais y revenir, du plaisir, de la jouissance, l'opposition entre ces deux termes, mais qui sont quand même des termes vraiment, enfin aussi d'origine analytique, dont la genèse est vraiment, se trouve dans le discours de Freud et de Lacan. Donc, et Barthes a l'air de commencer avec ça sans même se justifier, sans avoir à en répondre. C'est d'ailleurs sous cette double catégorie ou sous ce double paradigme, disons, de l'indécision et de la neutralisation que je pense on peut penser le rapport de Barthes à la psychanalyse. Et je pense notamment ce rapport, j'en dirai un mot dans un instant, par rapport à d'autres rapports, d'autres structuralistes ou post-structuralistes à la psychanalyse, il me semble que Barthes a vraiment une position tout à fait singulière. Et je crois qu'avant de travailler pour cette séance de séminaire, je n'y avais jamais réfléchi dans ces termes-là. Mais il y a tout de même chez Barthes à la fois cette manière d'indécision, quand il écrit, je crois que c'est dans SZ, « Mon rapport à la psychanalyse est indécis, je ne sais pas ce qu'il est », que j'ai essayé de faire comme ça résonner, parce que je pense que ça n'est pas une déclaration à la légère. Et je pense que de fait, le rapport de Barthes à la psychanalyse est flottant, hein, un peu au sens de l'écoute flottante. C'est-à-dire il a un rapport d'écriture flottant ou d'écoute flottante de la psychanalyse qui laisse délibérément flottant. Et je pense que cette prémisse presque, ou cette décision, si j'ose dire, qui n'en est pas une, de ne pas savoir où situer le discours analytique, à la fois par rapport à son propre discours et à l'intérieur de son propre discours, est aussi, d'une certaine manière, une forme de rapport et une décision d'écriture et une décision critique. Et ça m'a d'autant plus frappée que j'ai pensé à un autre rapport entre le discours, notamment lacanien, mais pas seulement, le rapport entre le discours analytique et un autre texte que je connais peut-être mieux que celui de Barthes, c'est le rapport que Derrida entretient avec la psychanalyse. Et là, même si, là aussi, on pourrait qualifier le rapport de Derrida à la psychanalyse comme une forme de rapport sous la modalité du non-rapport, si on veut aller vite, c'est pas du tout la même manière de non-rapport. Parce que chez Derrida, il me semble qu'il y a une manière de croiser le fer avec la théorie analytique, freudienne, lacanienne, et de manière singulière, Freud et Derrida, Freud et Lacan, hein, c'est Freud et la scène de l'écriture, le facteur de la vérité, qui est le texte, d'une certaine manière, pour l'amour de Lacan, comme il dit dans une autre conférence. Donc il y a bien un rapport singulier, hein, de Derrida, qui singularise le discours freudien, hein, la genèse de la psychanalyse freudienne, qui singularise la pratique, et y compris ce qu'il considère comme une dérive d'un certain rapport à l'écriture dans le discours lacanien, qui n'est pas du tout superposable, disons, au travail de Barthes. Pour Barthes, il y a ce qu'il appelle donc très justement une indécision, ou en tout cas une forme de réticence assez légère, enfin assez tranquille, qui est sans commune mesure avec le travail de résistance, hein, d'ailleurs, sur lequel Derrida a lui-même beaucoup réfléchi, à la fois résistance de la psychanalyse à elle-même, ça c'est le motif principal pour Derrida, mais aussi, y compris, résistance, disons, de la déconstruction à la psychanalyse pour de bonnes raisons. Et chez Barthes, alors encore une fois, Barthes n'est pas philosophe, ne cherche pas à imiter ni le style ni la méthodologie, disons, d'un philosophe, mais en tout cas, il y a un rapport qui m'a paru beaucoup plus, je l'ai qualifié de tranquille, hein, d'une espèce de sérénité qui est sans doute là aussi sans équivalent. Surtout si on considère que ces textes, quand même, ont été écrits au début des années 70, dans un temps qui nous est maintenant assez lointain, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, mais où régnait tout de même en maître, et dans une maîtrise qui a y compris déclenché sans doute une partie de l'ire et de la réaction défensive d'Héridienne, la psychanalyse lacanienne, le personnage de Jacques Lacan, le séminaire de Lacan, auquel on se pressait. Donc il y avait tout de même une pression hégémonique, disons, du discours analytique lacanien, à laquelle Barthes a su, mais même pas résister, avec laquelle il a su faire, pour continuer à être lui-même. Et ça, je ne suis pas sûre qu'il y ait tellement d'exemples, enfin peut-être que vous en avez à l'esprit, mais disons, de figures d'intellectuels qui soient restées tranquilles par rapport au discours analytique, sans s'en défendre violemment, hein, ni y adhérer, ni conceptuellement, ni entièrement. Et il me semble que dans ce frayage, disons, et dans cette relative tranquillité du frayage, il y a aussi sans doute un des effets de cette indécision et ou neutralisation, malgré tout, du discours analytique. Donc, ça témoigne d'un rapport, ça n'est pas seulement la personnalité, disons, ou le style, peut-être tout est dans le style de Barthes, mais il y a là quelque chose, une manière d'avoir trouvé, une distance, peut-être pas la bonne distance, mais en tout cas une distance très singulière. Voilà, et ça me frappe. Quand j'ai lu sous la plume, par exemple, de Marie-Gilles l'autre jour, j'ai relu ce qu'elle a appelé le peu de scrupules de Barthes à l'enseignement lacanien. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à l'époque, on lisait Lacan et on citait Lacan dans le détail. Et pour Barthes, il y a une manière aussi de citer, qui est sans doute une pratique citationnelle assez répandue, assez commune dans l'écriture barthésienne, mais qui consiste à ne pas citer, ou à citer apparemment de manière assez dilettante ou assez lointaine, et qui est un manque de scrupules que sans doute les lecteurs de Lacan d'époque ou les auditeurs de Lacan ont dû entendre, prendre pour tel. Voilà, donc ça m'a aussi beaucoup intéressé de voir cette manière très différente que Barthes a de finalement ne pas réagir, hein, ni réagir contre, ni s'engager avec la psychanalyse lacanienne. D'autant que je me disais que le texte, notamment du plaisir du texte, est paru, si ma mémoire est bonne, en 73, c'est-à-dire, je dis une bêtise là, non ? D'accord, parce que j'ai pas revérifié la date, et je me disais que le texte de Derrida, par exemple, l'un des premiers textes de Derrida sur Lacan, ou en tout cas il prend position, c'est le texte précisément de position, et notamment cette note 33 de position, qui est une note qui fait plusieurs pages, 4 ou 5 pages, dans laquelle Derrida énonce une série, disons, de critiques de critiques et d'objections à la psychanalyse lacanienne tenue pour métaphysique. Je me disais qu'entre 72 et 73, de fait, on est à un moment où sans doute les effets de la psychanalyse lacanienne, de l'enseignement de Lacan sont alors, peut-être pas à leur maximum, mais enfin pas très loin, et que peut-être aussi le plaisir du texte, à sa manière, répond à ce temps, bien sûr pas exclusivement, je suis pas en train de dire ça, mais enfin, il y a tout de même peut-être une manière de réponse ou de positionnement aussi très singulier qui peut se lire ou se relire dans la comparaison ou en tout cas dans les échos à d'autres textes contemporains. Alors, ce qui m'a frappée en relisant le texte, c'est que, encore une fois, les deux concepts clés, les deux notions, disons, du texte barthésien, sont le plaisir, tout de même, et la jouissance, qui sont d'emblée, articulées l'une contre l'autre, avec l'autre, même si c'est dans une articulation, disons, dialectique complexe et dont... ce que Barthes appelle à la page 11 une dialectique du désir, mais enfin tout de même ce sont deux notions qui sont vraiment des notions héritées de l'enseignement, enfin à la fois de la théorie freudienne et de l'enseignement de Lacan. Et d'ailleurs, la question de l'au-delà du plaisir, du principe de plaisir, donc du texte de Freud de 1920, n'est pas du tout indifférente, me semble-t-il, à la théorisation de Barthes dans ce texte, d'autant que ces catégories, encore une fois, de plaisir et de jouissance, recouvrent à la fois une division, disons, interne au texte de l'au-delà du principe de plaisir, donc où Freud envisage et est obligé de reconceptualiser, de refonder, au fond, tout son système théorique depuis la découverte du caractère central de la pulsion de mort, donc d'une certaine pulsion de destruction, d'autodestruction, qui est à l'œuvre dans la vie. Donc c'est à la fois central, absolument structurant pour l'œuvre freudienne, mais bien sûr dans le fait de reprendre le terme de jouissance, qui est un terme vraiment lacanien, enfin dont Lacan a fait l'usage qu'on sait, il y a aussi une manière vraiment de se situer, à la fois par rapport à Freud, dans le rapport que Freud entretient avec lui-même, si j'ose dire, le plaisir comme étant cette dimension, le principe de plaisir tel qu'il est défini dans les textes des années 10, du début des années 10 par Freud comme ce principe de régulation, donc au fond, au sens pratiquement où l'entend Barthes, hein, puisque si j'ai bien compris, le texte de plaisir est un texte qui est autorégulé, hein, qui permet une autorégulation du lecteur, son adaptation d'une certaine manière à son environnement textuel, alors que le texte de jouissance, au contraire, est un texte hors sens, si on peut dire, en tout cas qui produit un phénomène de rupture. Et de ce point de vue-là, il me semble que Barthes, encore une fois, sans rien en dire qui relèverait d'une justification pesante, mais véritablement joue sur le concept du principe de plaisir freudien. Je ne crois pas que le terme d'ailleurs de principe de plaisir soit repris dans le texte, en tout cas peut-être que j'ai raté une occurrence, et il me semble que la manière dont il a d'articuler le plaisir contre la jouissance est vraiment là aussi une opposition freudienne, et qui aussi fait signe vers ce que Lacan en fait dans les années 60. Je lis simplement pour donner à entendre, plaisir / jouissance, terminologiquement, cela vacille encore, j'achoppe, j'embrouille. De toute manière, il y aura toujours une marge d'indécision, la distinction ne sera pas source de classement sûr, le paradigme grincera, le sens sera précaire, révocable, réversible, le discours sera incomplet. Et sur cette distinction célèbre entre plaisir et jouissance, texte de plaisir et texte de jouissance, texte de plaisir, celui qui contente, emplit, donne de l'euphorie. Celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle. Rien que le terme de culture est un terme archi-freudien, si on y réfléchit, ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Texte de jouissance, celui qui met en état de perte, celui qui déconforte peut-être jusqu'à un certain ennui, fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs, de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage. Voilà. Alors, encore une fois, la jouissance, me semble-t-il, est clairement opposée au plaisir au texte de plaisir, en tout cas dans la définition barthésienne, où la jouissance est véritablement l'au-delà du plaisir, hein, qui fait signe vers la mort, sans doute. Paradoxe, je cite encore, cette gratuité de l'écriture qui approche par la jouissance celle de la mort, l'écrivain la tait. Alors, pour encore une fois m'intéresser un tout petit peu en détail et pendant quelques instants au mode de relation à la psychanalyse et selon un inventaire qui là aussi n'a rien d'exhaustif, je note d'emblée, encore une fois, dès le début du texte, de la part de Barthes, des emprunts très explicites et non suivis à la terminologie lacanienne. Et je me disais, en écrivant ce texte, qu'il y a une manière de non sequitur, délibérée, je pense, par rapport à la psychanalyse, peut-être par rapport à d'autres sources critiques, mais il y a véritablement une manière, finalement, de relever sans relève. C'est-à-dire, pour Barthes, d'importer un terme ou un syntagme ou carrément une proposition analytique ou qui serait d'origine disons analytique et de ne pas donner suite disons telle qu'on s'y attendrait et comme si il y avait des espèces de fulgurances comme ça associatives en provenance du discours analytique mais qui donnent lieu à ce que j'appellerais un tout petit peu plus tard des élaborations imaginatives ou imaginaires de Barthes. Comme si ça lui permettait de s'élancer vers d'autres cieux, d'aller dans d'autres sens que ceux auxquels on s'attendrait quand on est par ailleurs lecteur de psychanalyse. Et cette idée de non sequitur, j'en vois par exemple une première instance, puisque ces questions sont beaucoup discutées au début du texte, du plaisir du texte, c'est notamment quand Barthes écrit, sans plus d'explication d'une certaine manière, on n'est pas ici dans la perversion mais dans la demande. Et pour un lecteur de Lacan, ces termes-là sont absolument consistants, notamment si on a lu le séminaire 5 sur les formations d'inconscient. Donc je me disais que Lacan a une manière de, comment dire, peut-être pas d'ailleurs tant de parler au lecteur de Lacan, c'est peut-être pas du tout son objectif, mais en tout cas pour lui, d'entrer dans une espèce de dialogue pratiquement, je sais pas comment dire, relativement silencieux, ou en tout cas dont les échos sont relativement silencieux, avec la terminologie lacanienne, parce que la question de la perversion et de l'incidence de la demande dans la perversion, c'est une question qui pourrait être glosée par les lacaniens, et rassurez-vous, je ne vais rien en faire ici. Mais enfin, de même que la question qui hante, me semble-t-il, aussi le discours de Barthes au début du plaisir du texte, à savoir la question de la structure rapportée au texte, et bien sûr aussi une question qui est une question de facture lacanienne, de signature lacanienne. J'en cite juste une instance. Tout écrivain dira donc « fou ne puis, saint ne daigne, névrosé je suis ». Et quand j'ai lu cette formule « fou ne puis », j'ai repensé à cette formule rebattue de Lacan qui disait que la psychose est une structure qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc c'est comme s'il y avait, alors peut-être c'est simplement une incidence purement, un pur hasard, disons accidentel, mais je ne suis pas convaincue de ça. Je pense qu'il y a comme une espèce de sous-conversation, disons, pas au sens tout à fait sarotien, mais de sous-conversation entre Lacan entre Barthes et Lacan, où Barthes, d'une certaine manière, glose ce qu'il a entendu ou ce qui lui revient, parce que fou ne puis, ça me semble une formule dont, bien sûr, Barthes a pu avoir... avoir la paternité, mais enfin c'est tout de même étonnant la manière dont ça résonne par rapport à un énoncé célèbre de Lacan. Et encore une fois, dans certains paragraphes, j'ai considéré notamment la première partie du texte, il y a, sous cette forme pratiquement aphoristique, très caractéristique du texte, du plaisir du texte, des commentaires, disons, des sous-commentaires ou des commentaires qui relèvent d'une sous-conversation avec Lacan, des gloses à peine masquées où Barthes semble intéressé d'ailleurs plus, beaucoup plus par l'enseignement lacanien que par la théorie freudienne. Et je pense que je relisais ce que Marie-Gilles dit très justement à ce sujet lorsqu'elle dit que le problème de Barthes avec Freud, le problème de Barthes avec Lacan, c'est que Lacan fait retour à Freud, et qu'en fait le problème peut-être de Barthes à Freud, c'est un certain organicisme qu'il lit chez Freud, un certain somatisme, une tendance à la réduction plus mécaniste sans doute, qu'il lit chez Freud, à tort ou à raison. Et je lis ce passage où j'entends comme une espèce de sous-conversation qui m'a apparu étonnante avec l'œuvre de Lacan, dans la perversion, qui est encore une fois l'une des questions centrales du début du plaisir du texte, qui est le régime du plaisir textuel, écrit Barthes, il n'y a pas de zone érogène, expression au reste assez casse-pied. C'est l'intermittence, comme l'a bien dit la psychanalyse, qui est érotique. Celle de la peau qui scintille entre deux pièces, le pantalon et le tricot, entre deux bords, la chemise ouverte, le gant et la manche. C'est le scintillement même qui séduit, ou encore la mise en scène d'une apparition-disparition. Et alors, c'est un tout petit paragraphe, mais qui est comme une glose du séminaire 4 sur la relation d'objet, ou même, et du chapitre, notamment du chapitre 9 sur le fétiche, ou encore qui renvoie, parce que cette question du scintillement, je l'ai noté à plusieurs endroits et dans le texte, bon, qui est bien sûr lié à la question du fétiche et à l'objet petit a, mais cette question du scintillement revient sous la plume de Barthes à plusieurs endroits. Elle est centrale, et c'est une question, bien sûr, qui est tout de même une question qu'a relevée. En tout cas, c'est un motif, celui du scintillement, qui est vraiment propre à Lacan, puisque c'est le fameux motif c'est le fameux motif de l'objet du désir de l'agalma dans le séminaire 8, hein, où Lacan, au moment où il glose le banquet de Platon, montre qu'en fait ce qui fait de la figure de Socrate une figure de désir, c'est précisément qu'il est comme ces petites statuettes anciennes, comme plein d'objets brillants. Comme si son corps, si son buste contenait des petits objets brillants. Donc ce scintillement, cette dimension de scintillement de l'objet, qui est vraiment très identifiée, me semble-t-il, à la description, enfin à l'attribut de l'objet du désir pour Lacan, Barthes est intéressé à la reprendre à plusieurs endroits. Le scintillement, bien sûr, c'est aussi le fameux glance out der Nase, hein, ce fameux contresens interlangue, si j'ose dire, hein, puisque c'est a glance at the nose de cet homme dont Freud nous entretient dans l'article de 27 sur le fétichisme, hein, cette fameuse référence freudienne, à travers les langues, puisque ce glance qui s'est traduit glance, c'est-à-dire scintillement, en fait est glance at the nose, c'est-à-dire regard. Et c'est l'objet regard qui devient scintillement. Hein. Et ça, c'est repris à plusieurs endroits. Notamment dans cette instance par Barthes. Et ce qui m'a paru le plus étonnant au sujet de cette histoire de scintillement, c'est notamment que dans les fragments, et je ne sais pas si c'est à dessein, Barthes reprend la question du miroitement et d'une certaine manière l'attribue à Freud. Alors que le miroitement, c'est vraiment le mot lacanien, par excellence, hein, l'objet miroite. Et je ne sais pas si là, peut-être vous demanderez ce que vous en pensez, parce que j'ai noté, et je pense que Barthes le sait pertinemment. Donc pourquoi se chasser-croiser entre Lacan et Freud à cet endroit? Je cite ce petit passage des fragments. « Le corps qui va être aimé est à l'avance, cerné, manié par l'objectif, soumis à une sorte d'effet zoom qui le rapproche, le grossit et amène le sujet à y coller le nez. N'est-il pas l'objet scintillant qu'une main habile fait miroiter devant moi et qui va m'hypnotiser, me capturer ?» Et c'est dans un passage où, en marge, il est noté Freud. Ça n'est pas Freud. Enfin, bien sûr, The Glance of the Nose, oui, mais sinon, le miroitement, c'est d'ailleurs. Donc, je me suis demandé si ça pouvait participer, ça, d'une stratégie, ou si c'est simplement que Barthes ne va pas revérifier. Mais je suis pas tout à fait convaincue par cette analyse. Mais enfin. Et alors, bien sûr, dans le plaisir du texte, me semble-t-il, l'élément vraiment particulièrement saillant et qui renvoie à l'enseignement de Lacan, ce sont tous les développements autour de la question de la jouissance, de l'indicible et de l'interdit de la jouissance, où bien sûr Barthes lit aussi Leclerc, mais Leclerc dans son rapport à Lacan. Cette prémisse analytique, disons, que la jouissance est interdite, en tout cas c'est ce que dit Barthes, qui a l'air de faire pratiquement écho à l'envers à l'injonction surmoïque dont Lacan dit qu'elle est jouie, avec un point d'exclamation. Et dont Barthes tire la conclusion que l'écrivain de plaisir et son lecteur acceptent la lettre en renonçant précisément à la jouissance. Donc il y a une espèce de lecture, disons, négative, si j'ose dire, du plaisir, où le plaisir n'est plus lu simplement depuis ce principe régulateur, mais depuis une forme depuis un certain renoncement, disons, partagé à la jouissance. Comme si la jouissance, finalement, était la véritable catégorie structurale ou discriminatoire de l'écriture, hein, au-delà du plaisir. Donc, d'une certaine manière, le plaisir du texte, c'est aussi au-delà du plaisir du texte. Et ça, en ce sens, c'est très étonnamment freudien comme démarche. même si, encore une fois, ça n'est pas annoncé ni avancé comme cela, et pas du tout, pour, me semble-t-il, pour s'en défendre, mais plutôt simplement pour, comme si Barthes, encore une fois, frayait à sa manière, hein, quitte à rencontrer à nouveau Freud sur son chemin. Je vais passer. Je me disais que il y a bien sûr un point qui reste peut-être un point à noter, mais sur lequel je ne peux pas dire grand-chose parce qu'il faudrait y consacrer un temps et en faire un examen très approfondi. Mais bien sûr, on ne peut pas s'empêcher, quand on lit Le plaisir du texte, à penser à la nécessité d'un Lacan avec Sade, d'une certaine manière, depuis Barthes. Parce que tout de même, la figure sadienne, elle intervient, et puis elle renvoie au Sade, Fourier, Loyola, et elle renvoie bien sûr au fameux article de Lacan de 62, Kant avec Sade, qui est tellement, tellement structural et qui est tellement significatif pour l'avenir de la pensée de Lacan, dans le séminaire notamment sur l'éthique de la psychanalyse, enfin qui est un vrai tournant qui amène Lacan à penser ensuite, à repenser tout à fait autrement la question de l'objet petit a. Donc je me disais simplement que là, ils ont plus qu'un texte en commun, en tout cas ce texte-là en commun, en partage, et je note, tiré toujours du plaisir du texte, au sujet de Sade, nul objet n'est dans un rapport constant avec le plaisir, et Barthes note Lacan à propos de Sade, nul objet n'est dans un rapport constant avec le plaisir, Lacan à propos de Sade, cependant, pour l'écrivain, cet objet existe, ce n'est pas un langage, c'est la langue maternelle, l'écrivain est quelqu'un qui joue avec le corps de sa mère pour le glorifier, l'embellir, le porter à la limite de ce qui, du corps, peut être reconnu. Et ça fait... Alors, non seulement cette notation Lacan à propos de Sade, qui est clairement intertextuelle, mais également, me semble-t-il, cette manière de penser le rapport de l'écrivain à la langue maternelle, c'est aussi une manière de nous permettre de repenser ou de faire écho à la manière que Lacan a de définir, dans les tout premiers temps, la jouissance comme, pratiquement comme catégorie juridique, hein, comme usus, abusus, et cette capacité notamment... du sujet à la jouissance, si j'ose dire, de détruire le corps. La jouissance, c'est un certain rapport, c'est une certaine possibilité de destruction du corps propre ou du corps de l'autre. Et voilà, j'ai trouvé que repenser la langue maternelle et le rapport de l'écrivain à la langue de sa mère, depuis aussi, bien sûr, ce que Barthes appelle la glorification, l'embellissement du corps, mais aussi tout de même la porter à la limite de ce qui, du corps, peut être reconnu, c'est dire tout de même, même si c'est le dire sur un mode peut-être un peu, comment dire, masqué, c'est dire aussi la destruction. L'embellissement peut passer par toute une série de manipulations. Juste encore quelques mots sur les fragments d'un discours amoureux, donc un texte postérieur de 77, dans un temps qui m'a intéressée aussi parce que d'abord il y a cette prégnance, cette insistance d'un certain rapport à la psychanalyse, ou en tout cas cette notation marginale du nom de Lacan, de Freud, de Winnicott, dans les marges du texte, comme Lacan le pratique couramment. Mais c'est aussi un moment qui correspond à son moment, me semble-t-il, biographique, disons, de rencontre avec... Enfin, qui correspond à un temps qui a suivi cette rencontre ratée avec la cure, en tout cas. Et ce moment, sans doute pour lui très douloureux, autour de cette histoire d'amour avec cet interne en médecine, donc dont Tiphaine Samoyeau nous dit tout un tas de choses, mais donc qui pose d'une certaine manière la question douloureuse et brûlante du désir, et qui est quand même une catégorie pour le moins lacanienne, en tout cas. Non pas que Lacan ait été le seul à jamais parler du désir dans l'histoire de la pensée ou de la philosophie, mais c'est vrai que à ce sujet, il y a un certain nombre de d'intertextes là, ou de la part de Barthes, enfin une pratique de l'intertextualité en direction bien sûr de l'histoire de la philosophie, Nietzsche, Descartes, etc., mais aussi quand même de manière très récurrente et sans toujours le dire, un écho au Banquet de Platon, qui est le grand texte historiquement sur le désir, enfin dans l'histoire de la métaphysique, disons, mais qui est un texte que Lacan a lu mot à mot, et dont bien sûr Barthes connaît, enfin, dont il connaît la lecture par Lacan dans le séminaire 8, hein, qui est une lecture, on sait, les deux tiers du séminaire 8, donc sur le transfert, est une lecture particulièrement singulière, mais est une lecture pas à pas, mot à mot, du séminaire du banquet. Et je trouve que cette présence très insistante du banquet est aussi intéressante à cet égard, parce que là, il y a comme un intertexte partagé, disons, entre Barthes et Lacan, sans que Barthes le singularise, le thématise. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, dans les fragments d'un discours amoureux, à noter, c'est que la première référence à la psychanalyse, dans les premières pages, c'est une référence à l'au-delà du principe de plaisir, et notamment au fameux jeu de la bobine, où Freud reconnaît l'insistance, disons, d'une motion qui l'amène à revisiter, à refonder complètement sa première topique. Donc, ce petit-fils de Freud qui donc envoie cette bobine, et je cite, je crois que c'est la page 22, « L'absence dure, il me faut la supporter, je vais donc la manipuler, transformer la distorsion du temps en va-et-vient, produire du rythme, ouvrir la scène du langage. » Le langage naît de l'absence. L'enfant s'est bricolé une bobine, la lance et la rattrape, mimant le départ et le retour de la mère. Et là, il y a une manière, enfin, selon un, je sais pas comment dire, presque un schème métonymique très convaincant, de lier, de mettre ensemble l'objet amoureux, l'objet du désir, et l'objet maternel, bien entendu, mais selon cette modalité, disons, d'intertexte très singulier, qui est tout de même la référence à l'au-delà du principe du plaisir. Alors, ce qui m'a intéressée dans ce texte, c'est notamment le statut de l'objet, qui est extrêmement présent dans le texte des fragments d'un discours amoureux, entre, disons, l'heure et surprise subjective. Parce que, encore une fois, même si Barthes ne fait pas explicitement référence au séminaire 10 sur l'angoisse de Lacan, là où Lacan véritablement définit l'objet petit a, même s'il a déjà été abordé dans le séminaire sur le transfert, donc c'était un séminaire de 62-63. L'objet aimé, comme dit Barthes, dans les fragments d'un discours amoureux, a tout de même beaucoup des attributs de l'objet petit a lacanien. Sans que ce soit encore une fois lourdement explicité ou argumenté, Barthes délibérément se tient hors de cette manière, disons, cette obligation, argumentative ou citationnelle. Mais enfin, tout de même, pour Barthes, comme pour Lacan, ce n'est pas l'objet tel qu'il apparaît qui est désirable. Le désir, d'une certaine manière, vient d'une réponse du sujet, de la manière dont le sujet répond à l'objet qu'il rencontre. Et toute cette dimension de la rencontre est très largement abordée, et des effets, disons, de surprise de la rencontre, qui, pour par exemple Freud ou Lacan, sont une des marques de l'inconscient. L'irruption de l'inconscient, c'est notamment pour Freud dans la surprise, dans l'unbewusst, quoi, que l'unbewusst se manifeste. Il me semble que cette dimension de l'objet est extrêmement prégnante. L'objet aimé barthésien, donc, est conforme aux propriétés ou aux attributs de l'objet petit a. Et d'ailleurs, il y a un passage à la page 27 que j'ai trouvé très beau, où le nom de Lacan se trouve pratiquement mêlé à celui de Proust, ce que j'ai pris pour ce que Derrida appellerait une déclaration d'amour. C'est-à-dire, notamment au moment où, en faisant relativement écho, me semble-t-il, à cette question de la théorisation de l'objet comme déchet symbolisé par Lacan, hein, l'objet petit a, c'est l'objet qui du réel chute, enfin ce qui reste comme déchet du réel dans le symbolique, Barthes écrit « Il a fallu beaucoup de hasard, beaucoup de coïncidences surprenantes et peut-être beaucoup de recherches pour que je trouve l'image qui, entre mille, convient à mon désir. » Il me semble que là, on entend, bien sûr, il faut faire un petit effort d'écoute, quoi, mais il me semble qu'on entend sur un mode qui n'est pas un mode de glose appuyée, mais tout de même comme une effraction ou comme une réverbération, disons, de l'objet petit a. Et d'ailleurs, Barthes est très sensible à l'un des objets, disons, que Lacan a rajouté, vous savez, à la liste freudienne des objets partiels, et notamment à la voix. Il y a tout un tas de longs développements, et on sait bien sûr le statut de la voix dans l'œuvre de Barthes, mais c'est tout de même l'un des objets partiels que Lacan met en avant avec le regard pour compléter la liste freudienne. Et bien sûr, il y a ces mentions où l'objet apparaît comme toujours déjà perdu, hein, qui est quand même lacanienne, contre Freud, qui pense qu'il y a des retrouvailles avec l'objet, en tout cas avec un objet qui aurait été supposément perdu. Et pour Lacan, d'une certaine manière, il y a un endeuillement de cette question de l'objet qui est beaucoup plus net et qui est une différence sans doute de Lacan par rapport à Freud, une lecture contradictoire, disons, de Lacan par rapport à Freud, où Lacan considère que l'objet, au fond, que l'on appelle perdu, n'a jamais été connu. En tout cas, il n'y a pas eu d'union à cet objet. Donc ces retrouvailles sont des retrouvailles d'un objet toujours déjà perdu, si j'ose dire. Et il me semble qu'on entend cette dimension lorsqu'on lit, par exemple, « Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu. » Bon, là aussi, sous une forme qui n'est pas une glose à laquelle on pourrait s'attendre, sous la plume, par exemple, d'un commentateur. Et bien sûr, toute la dimension, mais je vais passer parce que je voudrais simplement dire quelque chose pour finir, mais toute la dimension de fading, de ce que Barthes appelle le fading, qui est tellement central, ne peut pas ne pas renvoyer, parce que ce n'est pas le fading de l'objet, comme dit Lacan après Jones, qui relie la question du fading par rapport à la castration, à la phanicis jonesienne, c'est bien du fading du sujet dont il s'agit, hein, c'est-à-dire du rapport, finalement, dans le fading, me semble que chez Barthes, et de manière très précise, c'est bien le rapport entre l'objet et le sujet. C'est bien de cette disparition, disons, disparition-apparition du sujet, hein, qui est l'effet de sa rencontre avec l'objet. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout en train de dire que Barthes applique Lacan. Je ne voudrais absolument pas suggérer une telle chose, ça n'aurait aucun sens. Mais je pense qu'il y a quand même des effets d'écho, hein, dans le rapport, disons, de Barthes à la question du désir et à l'instance de l'objet dans l'économie du désir, où la question finalement l'aphanésis du désir, c'est en tant qu'à la pointe du désir, il y a fading du sujet. Et ça, tout de même, c'est une idée qui concorde, enfin, qui consonne avec l'approche lacanienne, de manière très intéressante, d'autant qu'elle est travaillée par Barthes depuis son propre cheminement, dans le cours des fragments. Encore une fois, il n'y a rien qui ressemble à une application ou à une volonté de coller à quelque, disons, forme du discours que ce soit. Alors, je réfléchissais en préparant cette communication à cette affaire de neutralisation, parce que il me semblait que dans ce rapport que j'ai évoqué un peu plus haut, enfin, en glosant la formule de Barthes d'indécision, il y avait bien comme une espèce de, justement, pas de résistance, donc pas quelque chose qui serait défensif, mais de suspension du rapport à la psychanalyse, comme si c'était possible de suspendre le jugement par rapport à la théorie psychanalytique. Je n'ai pas trouvé pratiquement... Bon, il y a cette mention un peu, de Freud, enfin, en tout cas, de ce qu'il appelle les zones érogènes, ça n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser, où il dit « je trouve cette formule un peu casse-pied ». Bon, il y a quelque chose là d'irrité de la part de Barthes, et on voit bien où, finalement, la dimension de l'affect et du désir se trouve irritée à être rapportée à une dimension purement somatique et pratiquement mécaniste. Mais sinon, je n'ai pas, alors peut-être que je serai contredite dans ce qui suit, mais trouvé sous la plume de Barthes de véritables, objections au discours analytique. Il n'y a pas une manière, encore une fois, et c'est assez déroutant, comme moi on a travaillé un peu sur Lacan et Derrida, de s'apercevoir que c'est possible de s'adresser au discours de la psychanalyse sans s'y opposer, sans avoir à y objecter. Mais il y a ça tout de même, il y a une manière, c'est ce que j'ai appelé neutralisation, c'est-à-dire non pas du tout une manière de ne pas vouloir la prendre en considération, il y a une vraie prise en considération très précise, beaucoup plus précise que cette espèce d'élégance, des détentes à l'air de laisser paraître, et en même temps quelque chose comme un rapport suspendu, non décisionnaire, où le tranchant, disons, notamment de l'analyse lacanienne, est complètement inconnu. Et je me demandais, et ça c'est une discussion que j'ai eue avec Marc Poré cette semaine, dans un cénacle tout autre et tout à fait au milieu d'autres choses, mais je me demandais si, parce que Marc me rappelait ce que Tiphaine Samoyo rapporte sur tout de même la manière qu'elle a de rappeler, ou en tout cas de faire entendre la disparition du père en mère, du père de Barthe mort alors que Barthe n'avait pas un an, ou à peine un an, de ce père en mère. Ça, je trouve que cette manière de faire entendre cette disparition-là du père dans la mère, et cette paronomase est beaucoup plus qu'un jeu de mots, de fait, enfin, donne à entendre une dimension que jusque-là, moi, en tout cas, à laquelle je ne m'étais pas rendue suffisamment sensible. Mais je me disais que peut-être que cette manière de neutralisation chez Barthes, et c'est la lecture d'un autre texte de Freud qui m'a rappelé ça, du texte du souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, cette neutralisation avait peut-être à voir tout de même avec l'absence de la figure du père, notamment dans la toute petite enfance. Et vous vous souvenez que l'argument freudien dans le souvenir d'enfance, c'est que Léonard était pris de cette libido siendi, disons, et de cette manière de pouvoir remettre en question, au-delà même des préjugés théologiques, le fonctionnement de la nature, enfin, était prêt à interroger scientifiquement toutes les manifestations naturelles, quelles que soient les prescriptions, disons, théologiques, du fait que, en tout cas la lecture que Freud en fait, c'est du fait de l'absence de la présence paternelle et donc de l'absence d'une autorité tutélaire dans les toutes premières années de la vie. Et Freud insiste beaucoup sur le fait que, et je me suis dit que d'une certaine manière, peut-être que Barthes était un petit Léonard, ou qu'il était un peu comme Léonard, qu'il y avait là une affinité entre Roland et Léonard, dans le fait que Barthes a été aussi dans les bras, sous les baisers d'une mère dont Freud dit qu'elle est pauvre et abandonnée et qu'elle le couvrait de baisers et qu'il n'était donc jamais exposé dans sa toute petite enfance, puisqu'on sait que Léonard n'a réintégré la maison paternelle qu'à l'âge de 3 ou 5 ans selon les biographes. Et donc finalement cette absence de révérence ou de ce que Marie-Gilles a appelé le scrupule par rapport à l'autorité du discours, de tous les discours d'ailleurs, sans doute au moins autant du discours de la philosophie que de celui de la psychanalyse, pardon, avait peut-être à voir avec ce que Freud appelle le défaut de complexe paternel, c'est-à-dire l'absence, disons, je sais pas comment dire, surmoisée, enfin, d'une figure, hein, d'une instance qui serait une instance précisément de décision, qui serait une instance devant laquelle on devrait rendre des comptes, hein, on devrait se rapporter. Peut-être cette neutralisation, mais je ne sais pas si ça fait sens par ailleurs, avait à voir avec cette dimension. Mais peut-être que c'est simplement de la psychanalyse sauvage et que c'est complètement idiot. Le passage que j'ai relu dans le souvenir d'enfance, c'est ce petit passage que je cite. « Quand quelqu'un a, comme Léonard, échappé dans sa première enfance à l'intimidation par le père et a rejeté dans son investigation les chaînes de l'autorité, notre attente serait contredite de la façon la plus criante si nous trouvions que le même homme était resté croyant, puisqu'il s'agit de la question de l'incrédulité de Léonard de Vinci, le même homme était resté croyant et n'est pas parvenu à se soustraire à la religion dogmatique. » Et Freud conclut, « La psychanalyse nous a fait connaître le rapport intime entre le complexe paternel et la croyance en Dieu. » Et je ne sais pas si ça s'applique complètement à Roland Barthes. En tout cas, l'absence de ce complexe paternel explique peut-être non seulement la libido siendi ou legendi ou scribendi de Roland Barthes, mais peut-être aussi une manière de pulsion critique, quoi, qui reste très, très tranquille, très à l'écart de toute injonction, disons, ou de toute obligation d'en référer à une instance tierce ou à une instance d'autorité. Et je me disais, en relisant le petit texte de la mort de l'auteur, que j'ai immédiatement associé, parce que la question du divin, enfin, de la figure du divin, s'est imposée à moi à partir de cette réflexion, autour du souvenir d'enfance, que cette mort de l'auteur n'était peut-être pas non plus complètement indifférente à cette absence de complexe paternel. D'autant que Barthes écrit spécifiquement dans ce texte, un texte n'est pas le message de l'auteur Dieu. Donc, simplement pour peut-être finir, parce que je sens que j'ai parlé presque trop longtemps, mais je voudrais faire une dernière mention qui m'a paru significative dans le rapport de Barthes et la psychanalyse. Et là, je vais en reparler, mais très brièvement, mais je vais quitter la lecture, disons, des modalités de la relation à la psychanalyse, mais dire un mot quand même du rapport à l'imaginaire, surtout dans le rapport à Lacan, puisque Et j'ai relu un texte de Claude Coste de la bibliothèque Barthes qui m'a intéressée, où donc il est écrit « En effet, Lacan et Barthes s'accordent bien sur la définition du réel comme distance, mais quand le psychanalyste désigne l'imaginaire comme une construction illusoire de soi sous le regard protecteur de la mère, le second valorise désormais l'illusion et la renverse en vérité affective. C'est du coup le symbolique, comme entrée dans le champ du langage et de la culture, qui se trouve dévalorisée à travers le mot masque. » Voilà. Et il me semblait que, de fait, il y avait comme une dimension, disons, constitutive du rapport de Roland Barthes à l'imaginaire, en tout cas si on voulait la lire depuis les rives de la terminologie RSI, c'est-à-dire depuis les trois registres lacaniens, réel, imaginaire, symbolique, et depuis la manière dont ces trois registres sont noués. Il semble qu'il y ait un nœud plus, je sais pas comment dire, plus constitutif ou plus central, me semble-t-il. Il y a en tout cas un nouage particulièrement singulier ou saillant, c'est le nouage symbolique-imaginaire, je pense, c'est Barthes, peut-être que vous me contredirez. Et il y a bien un des trois ronds, quoi, ou quatre, qui est tout à fait singulièrement présent, me semble-t-il, dans la manière que Barthes a de lire, y compris et surtout le texte littéraire, qui est le rond imaginaire. Le registre de l'imaginaire, je le disais même par rapport à d'autres écritures critiques au XXe siècle, est quand même extrêmement prégnant. Il est absolument, comment dire, délibéré et absolument revendiqué, mais il y a tout de même là comme une espèce de topos ou de trope, enfin en tout cas de topic, disons, qui peut-être même pourrait caractériser l'écriture critique barthésienne, la singulariser par rapport à d'autres écritures critiques. Je pense qu'il y aurait un texte à lire. Il y a bien sûr dans cette réflexion sur Barthes et la psychanalyse encore beaucoup de choses à faire, mais il y aurait sans doute une manière, enfin, la matière d'un examen approfondi du texte du stade du miroir et la manière dont finalement la question du moi, parce qu'il y a quand même une question moïque très forte chez Barthes, on peut dire ça sans faire du tout de psychanalyse appliquée, enfin, c'est pas du tout de la psychobiographie, parce qu'il y a bien une question du moi, l'instance critique c'est aussi une instance moïque, il me semble, chez Barthes, et pas du tout une instance moïque au sens psychobiographique du terme, ce n'est pas seulement Roland dans Roland Barthes, mais il y a bien un geste critique qui consiste à, d'une certaine manière, être en relation avec l'objet, pour le critique, avec l'objet texte, depuis une position que j'appellerais moïque, c'est-à-dire depuis une position qui est rapportée, disons, à l'instance qui parle. Encore une fois, le moi barthésien, le moi critique, n'est pas un moi qui est tout entier conscientiel. Hein. Je ne suis pas en train du tout de dire ça. J'ai relu notamment, avec beaucoup de profit, je crois que c'est dans le séminaire sur le neutre, une analyse du moi justement conscientiel, hyper conscientiel valérien, et où Barthes écrit « Mon propos est contraire à cette idée. Prendre la conscience, image anti-drogue, comme étant elle-même une drogue. Cela sous de simples conditions d'excès, la conscience excessive, l'hyperesthésie conscientielle. Une drogue avec l'attribut immoral, anomique, scandaleux, exclu, marginal de toute drogue. » Donc le moi du critique barthésien ou du critique qui est Barthes, encore une fois, n'est pas tout entier le moi de la conscience. Mais il y a tout de même, me semble-t-il, dans cette écriture critique, comme quelque chose qu'on pourrait qualifier d'autobiographie moïque. C'est-à-dire une écriture, disons, du sujet, hein, d'autobiographie d'un sujet, lecteur, selon des identifications successives, puisque c'est quand même ça le régime du moi, c'est celui de l'identification, des identifications à des écritures littéraires singulières, bien sûr, je pense à l'écriture de Proust, bien sûr, je pense à la figure et à l'écriture de Michelet, à des sensibilités qui rendent compte du trajet d'un lecteur-sujet, mais aussi de sa formation subjective dans la relation à ses objets d'amour. Il y a bien tout de même, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes de l'œuvre de Barthes, mais comme une espèce de continuité critique entre le moi du plaisir du texte et le moi des fragments d'un discours amoureux. Je ne suis pas sûre qu'on puisse considérer les fragments d'un discours amoureux comme un texte strictement autobiographique. Il me semble que c'est un texte qui est pris dans une dynamique critique de l'œuvre Et il me semble que ce qui fait le rapport entre le plaisir du texte, par exemple, et les fragments, c'est bien cette dynamique que j'appellerais d'autobiographie moyenne. Enfin, c'est atroce cette formule, mais c'est-à-dire cette série ou cette succession d'identifications à des écritures littéraires qui est inséparable, disons, de la genèse d'un objet aimé, comme Barthes. Hein? Comme si là, il y avait une coïncidence ou une continuité entre le sujet lecteur et le sujet aimant. Hein? Et comme si c'était impossible de tenir à l'écart le sujet lecteur du sujet de l'amour, au fond. Bon, je passe, mais il me semble que la centralité, bien sûr, du désir chez Barthes, hein, du désir critique, a à voir avec, enfin, et de type imaginaire. Hein, et si, peut-être on en reparlera si vous le souhaitez. Et je me disais que peut-être la rencontre manquée entre Barthes et Lacan, parce que c'est quand même un peu une rencontre manquée, malgré tout, a à voir avec cette hyper-centralité de l'imaginaire. Pour Barthes, parce qu'on peut dire sans risquer de se tromper que même si Lacan a pensé l'articulation des trois registres, le nouage entre les trois registres, c'est sans doute le registre de l'imaginaire qui intéresse le moins Lacan. Si on pense à la trajectoire de l'œuvre lacanienne, elle va en fait très nettement du symbolique, des premiers écrits de Lacan, des premiers séminaires qui sont vraiment à ancrage symbolique très fort, à la question du réel. Et si on, et ça a été dit, je ne suis malheureusement pas la première à le dire, si on peut voir là une trajectoire, il y a quand même l'un des registres qui est largement, finalement, peut-être pas passé sous silence, mais manqué par Lacan, qui intéresse moins Lacan, et c'est clairement le registre de l'imaginaire. Et c'est précisément celui qui intéresse, qui convoque le plus Barthes. Et juste, je finirai sur ce qu'on pourrait appeler le statut du fantasme dans l'écriture, disons, critique de Roland Barthes. Et notamment ce qu'il appelle pratiquement des projections, ou une espèce de lecture projective. J'ai repéré ce petit passage des fragments que je vous livre, qui est assez comique aussi. Dans la théorie de la littérature, la projection, entre guillemets, du lecteur dans le personnage, aujourd'hui n'a plus cours. Elle est néanmoins le registre propre des lectures imaginaires, dit Barthes. Lisant un roman d'amour, c'est peu de dire que je me projette. Je colle à l'image de l'amoureux, de l'amoureuse, enfermée avec cette image dans la clôture même du livre. Chacun sait que ces romans se lisent en état de sécession, de réclusion, d'absence et de volupté, c'est-à-dire au cabinet. Fin de citation. Le statut du fantasme, disons, dans un sens très particulier du terme, pourrait être interrogé depuis, la pratique critique de Barthes. Il me semble qu'il y a chez Barthes, à longueur de page, enfin, peut-être pas à longueur de page, mais souvent, ce que je désignerais comme le surgissement de scénarios imaginaires. Dans l'acte critique, hein, qui encore une fois éclaire la lecture, ces scénarios dont la planche et Pontalis nous disent, enfin, qui précisément éclairent ou définissent le fantasme. Et je cite la planche et Pontalis, scénarios imaginaires où le sujet est présent et qui figure, de façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et en dernier ressort d'un désir inconscient. Il me semble que dans la manière de lecture de Barthes, il y a tout de même ces surgissements de scénarios imaginaires qui, encore une fois, sont le substrat de la lecture barthésienne. Je repensais d'ailleurs à l'article d'Éric Marty à propos de SZ, et je voudrais citer Éric Marty, mais il y a parfois, écrit Éric Marty, dans le commentaire de Barthes, plus qu'un détournement de la lisibilité par la parodie et le renversement qu'on constitue le scriptible. Il y a la violence de son discours à l'égard de l'imaginaire, plein et mimétique du récit, où celui-ci devient alors vomitif, écœurant à vomir par son conformisme, sa platitude essentielle liée à son aspiration à la totalité qui est désignée comme l'ultime avatar de notre culture. C'est pourquoi Barthes introduit sans cesse, de manière impromptue, ces éléments d'utopie narrative comme éléments de fissuration du semblant dont se nappe et s'enrobe le récit balzacien. Et je me demandais si ces utopies narratives n'avaient pas à voir avec ces scénarios imaginaires, ou symboliques d'ailleurs, parce que peut-être qu'il s'agit aussi de découper le récit, de faire un découpage, disons, critique du commentaire de la nouvelle de Balzac. Mais enfin, j'étais intéressée par cette notion d'utopie narrative. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, mais enfin, il me semble que peut-être ça rejoint ce que j'ai appelé à l'instant les scénarios imaginaires ou le surgissement de scénarios imaginaires. Et alors, je me disais quand même, si j'avance ça le samedi, il va falloir que je fasse un peu mes preuves. Et alors, j'ai ouvert, en relisant hier, aussi pour le plaisir, parce que c'est un texte vraiment, je ne sais pas si je pense que c'est un texte de plaisir, en tout cas pour moi, L'Empire des Signes. Et je suis tombée sur deux petites sections de L'Empire des Signes, ce sera peut-être pratiquement ma conclusion, mais j'étais très frappée dans ces deux petites sections qui s'appellent « Sans parole » au pluriel et « La langue inconnue ». Et je voudrais juste vous livrer ces deux petites sections, peut-être c'est ma conclusion. Et comme ça, on pourra parler. Et je cite, voilà, sans commentaire pratiquement. « La masse bruissante d'une langue inconnue constitue une protection délicieuse, enveloppe l'étranger, pour peu que le pays ne lui soit pas hostile, d'une pellicule sonore qui arrête à ses oreilles toutes les aliénations de la langue maternelle. L'origine régionale et sociale, de qui la parle, son degré de culture, d'intelligence, de goût, l'image à travers laquelle il se constitue comme personne et qu'il vous demande de reconnaître. Aussi, à l'étranger, quel repos. J'y suis protégée contre la bêtise, la vulgarité, la vanité, la mondanité, la nationalité, la normalité. La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l'aération émotive, en un mot la pure signifiance, forme autour de moi, au fur et à mesure que je me déplace, un léger vertige, m'entraîne dans son vide artificiel qui ne s'accomplit que pour moi. Je vis dans l'interstice débarrassé de tout sens plein. Comment vous êtes-vous débrouillé là-bas avec la langue ? Ça, c'est la première citation. Et la dernière, que je citerai, donc, la langue inconnue, qui est juste avant, je crois. « Le rêve », écrit Barthes, toujours à propos du japonais, hein, et du fait d'être au Japon. « Le rêve, connaître une langue étrangère, étrange, et cependant ne pas la comprendre. Percevoir en elle la différence, sans que cette différence soit jamais récupérée par la socialité superficielle du langage, communication ou vulgarité. Connaître, réfacter positivement dans une langue nouvelle, les impossibilités de la nôtre, apprendre la systématique de l'inconcevable, défaire notre « réel », entre guillemets, sous l'effet d'autres découpages, d'autres syntaxes, découvrir des positions inouïes du sujet dans l'énonciation, déplacer sa topologie, en un mot, descendre dans l'intraduisible, en éprouver la secousse sans jamais l'amortir, jusqu'à ce qu'en nous, tout l'Occident s'ébranle et que vacillent les droits de la langue paternelle, celle qui nous vient de nos pères et qui nous fait à notre tour pères et propriétaires d'une culture que précisément l'histoire transforme en nature. » Voilà, c'est dans ces deux exemples, je voudrais juste donner à entendre, et c'est ma conclusion, ce que j'appellerais le libre jeu entre l'imagination et la sensibilité chez Barthes, qui est, me semble-t-il, une forme de signature critique barthésienne et qui a infiniment à voir avec ce qu'en langage analytique on pourrait appeler une lecture imaginarisante. Voilà, merci.